France Culture. Les pieds sur terre, Karine Leloët.
Dans sa petite ville de Vendée, Monsieur Paul est une figure connue et sympathique. Ce vieux garçon, passionné de course automobile, n'hésite pas à donner un coup de main pour les vendanges ou à confectionner des pots de confiture qu'il distribue à ses amis. Parmi ses proches, justement, il y a la famille de Frédéric Albert, qui le considère carrément comme son grand-oncle. Sauf qu'à la mort de Monsieur Paul, en 2018, à l'âge de 93 ans, Frédéric découvre que le vieil homme a fait de la prison. Il veut comprendre. 3 ans durant, il mène l'enquête et découvre l'impensable. Paul Pradier, puisque c'est son nom, est un ex-agent de la Gestapo. Il a guidé la Wehrmacht à des caches d'armes de la Résistance, a participé à des rafles de juifs, infiltré des maquis pour mieux les dénoncer. Plusieurs témoignages de survivants le décrivent même comme un agent zélé et efficace. À la fin de la guerre, Paul Pradier est arrêté, puis condamné à la perpétuité. Il sera finalement libéré pour bonne conduite en 1955, avant de se fondre dans une vie ordinaire. Comme Paul Pradier, 10 000 Français et 8 500 Wallons se sont enrôlés dans la Waffen-SS, la LVF ou la milice. Ils font d'ailleurs l'objet d'un passionnant documentaire, « Les ultras de la collaboration » de Jean Bulot, diffusé dans la série documentaire sur notre antenne. Mais contrairement à Paul Pradier, certains de ces ultras avaient une descendance, des filles ou des fils qui ont dû vivre avec cet effroyable fardeau. C'est le cas d'Alain, qui se raconte aujourd'hui au micro d'Antoine Guériman.
Je m'appelle Alain Lejeune, actuellement je suis retraité, j'ai 72 ans, je suis bruxellois d'origine et j'habite près de la ville de Namur. Je suis né de parents assez modestes, d'une mère qui est issue de milieu ouvrier et d'un père qui venait des Ardennes, d'une famille aussi assez modeste. Et on habitait dans un endroit qui s'appelait Genneval, encore à l'époque semi-rural. Et là, nous avions, mes parents louaient une petite maison. Et on avait un jardin et au fond de ce jardin, il y avait une vasque et on s'y baignait pendant l'été. Mon père est en maillot, il est torse nu, et je vois qu'il a une cicatrice sur le torse. Il a aussi une cicatrice à l'avant et à l'arrière de l'épaule. Et là, je lui demande, tiens papa, qu'est-ce que c'est ça? Et puis là, il me répond que c'est une blessure qu'il a eue pendant la guerre. Et il me dit à ce moment-là que, à quelques centimètres près, je n'aurais jamais existé. Dans mon imaginaire de petit garçon qui veut être fier de son père, évidemment, je me suis dit que c'était probablement une blessure du bon côté, que mon père avait dû être un résistant ou qu'il avait combattu du bon côté. J'avais 2 amis, les 2 seuls qui venaient chez moi, en fait, parce que, en fait, moi, je n'aimais pas trop que mes amis viennent chez moi. Et mes amis n'aimaient pas tellement mon père non plus, et ça peut se comprendre, parce que c'était un homme assez froid. Et donc, un de ses amis, qui était issu d'un milieu assez cultivé, et qui était un gars plutôt intelligent et futé, se met à regarder la bibliothèque de mon père. Et en fait, il y avait beaucoup de livres sur la Waffen-SS, sur le nazisme. Il y avait notamment le livre d'Albert Speer. Et il me dit, ton père a quand même des drôles de lecture. Mais ça n'a pas fait tilt pour moi, parce que je pensais à ce moment-là que, comme beaucoup de gens, mon père s'intéressait tout simplement à cette période de l'histoire, à cette période de la guerre. Voilà. C'était un homme que je détestais. J'ai toujours haï mon père. C'était un homme qui me faisait peur. C'était un homme froid, glacial même, extrêmement sévère, et qui n'était pas vraiment très violent physiquement. Il pouvait l'être. Il y a eu quelques épisodes de violence physique, mais ce n'était pas systématique. Mais il avait une forme de violence assez humiliante, qui surgissait de manière très abrupte. Donc on ne savait jamais à quoi s'en tenir avec mon père. C'est ça qui était terrifiant. C'est que quand j'étais face à mon père, je me demandais toujours de quoi j'allais être fautif. Quand j'avais 13 ou 14 ans, mon père, avec un de ses meilleurs amis, a monté un cabinet comptable et fiscal. Et cet ami m'a été désigné comme parrain. Il m'a été désigné d'office. Et c'est quelqu'un que je n'aimais vraiment pas du tout. Quand j'avais 16 ans, c'est l'âge auquel mon père m'a fait la révélation. C'est-à-dire qu'il est rentré dans ma chambre et puis il m'a dit « j'ai quelque chose à te dire dont tu devras absolument garder le secret. Si tu le dis, ça pourrait nuire à mes activités professionnelles. Tu dois certainement ne pas le dire à tes amis. » Donc il me dit ça, et puis il me dit « il faut que tu saches que pendant la guerre, j'ai combattu aux côtés des Allemands. Je suis un ancien Waffen-SS. » Je savais ce que c'était qu'un SS, évidemment, mais je ne savais pas ce que c'était qu'un Waffen-SS ou Wappen. Il a essayé de m'expliquer que ce n'était pas la SS noire, celle qu'on voyait dans les films de l'époque, que ce n'était pas la SS politique, que c'était en fait des troupes de choc. Et pour essayer d'édulcorer un peu ses propos, pour les rendre plus acceptables, je me rappelle qu'il les avait comparés aux GIs américains. Sauf que dans notre imaginaire de jeune homme, les GIs américains, c'était pas top non plus parce qu'on était en pleine guerre du Vietnam. Il a vu évidemment que je le regardais avec un air un peu effaré, comme j'étais dans un état de sidération. Et je me rappelle très très bien, la première réflexion que je lui ai faite, c'est de lui dire « Mais enfin, papa, comment as-tu pu faire un truc pareil en sachant ce qu'ils ont fait aux Juifs ?» Et là, il m'a répondu « Mais ça, je l'ignorais totalement, je ne l'ai su qu'en rentrant en Belgique. » Il m'a aussi expliqué qu'il avait été un simple soldat. Et comment c'est arrivé ? Donc en fait, il avait 19 ans à ce moment-là. Il était dans la rue avec sa mère et il a vu une affiche qui proposait de s'engager dans la Waffen-SS dans le cadre du combat anti-bolchevique. Et il était en train de se disputer avec sa mère, avec laquelle il était en très mauvais termes, disait-il. Il lui a dit, je répète de la manière crue dont il me l'a dit, « Si tu continues à m'emmerder, je m'engage là. » Et ce que sa mère lui aurait répondu, « Tu n'as pas les couilles pour le faire. » Et lui, se sentant piqué au vif, se serait engagé. Ça, c'est sa version. J'étais pas si surpris que ça. J'étais sidéré, mais ça correspondait à l'image de sale type que j'avais de mon père. Je n'aimais pas cet homme-là, et donc ça venait renforcer le fait que, ben oui, j'avais raison de ne pas l'aimer. Après ça, ben, je me suis vraiment senti enfermé dans son secret. Et dans la honte aussi, ça a été terrible. Et puis, j'avais pas les mots pour lui poser d'autres questions, ni de connaissances historiques suffisantes. J'ai senti qu'à ce moment-là, j'allais devoir passer ma vie à cacher ça. S'il m'explique ça, c'est uniquement pour pas que je ne l'apprenne par des voies que lui considérait comme malveillantes. Et qu'à ce moment-là, moi, je n'aille le répéter. Et que donc, que ça puisse nuire effectivement à ses activités professionnelles. Il avait peur de perdre des clients à cause de ça. Je tiens ce secret pendant un certain temps, parce que même si je n'aimais pas mon père, c'était quand même mon père. Et puis je le craignais aussi. Mais de temps en temps, la pression interne était tellement forte que je me confiais à l'un ou l'autre ami, mais très très peu, vraiment très très peu. Et que chaque fois que je me confiais, c'était avec un malaise épouvantable, parce que j'avais l'impression de le trahir, ça c'était une première chose. Parce que je ressentais de la honte, ça c'était une seconde chose. Parce que j'avais peur du jugement de l'ami à qui je me confiais, ça c'est une troisième chose. Et si ça n'avait pas été sous le sceau du secret, la confidence aurait dû être un soulagement pour moi. Et au lieu d'être un soulagement, elle me pesait encore bien plus. En famille, nous n'en parlions absolument jamais. Et ma mère non plus ne m'en parlait absolument jamais. Et je ne suis même pas sûr que mon frère l'ait jamais su. Mon frère et moi, on n'en a jamais parlé. Une fois, je vais réévoquer ça, mais c'est vraiment de manière totalement accidentelle. Une fois de plus, au cours d'une prise de bec assez sérieuse qu'il avait avec moi, il me dit « De toute façon, toi, tu ne feras jamais que des conneries. » Et alors là, j'ai le malheur de lui dire « De toute façon, j'en ai jamais fait une aussi grosse que la tienne. » Et là, il est rentré dans une rage, mais une rage folle. Il m'a pas frappé. Je me rappelle encore ces mots, ma mère était présente en plus de ça. Il a dit, tu te rends compte de ce que ton fils me dit, mais moi j'ai payé pour ça, j'ai fait de la prison pour ça. Et c'est la seule fois où j'ai encore évoqué ça avec lui. Je pouvais avoir 16 ans et demi. Je suis dans ma chambre et j'écoute la musique qu'on écoutait à l'époque. Moi, j'écoutais beaucoup Jimi Hendrix, Led Zeppelin, les Doors. sur un petit électrophone dépasse. J'écoutais ça à fond. C'est une musique qui nécessitait d'être écoutée fort parce que voilà, ça prenait aux tripes. Et mon père rentre du boulot, entend cette musique, qu'il considérait comme une musique de sauvage, de dégénéré, enfin bon, voilà. Et il rentre dans ma chambre avec là une très très grande violence, tout juste il défonce par la porte. Et il me dit, tu vas arrêter cette musique de merde, enfin que je joue dans ce goût-là, mais bon. Je commençais à jouer un peu de la guitare à l'époque. Comme tous les débutants, je jouais très mal évidemment, donc ça devait être aussi un peu exaspérant à entendre, ça je peux le comprendre. Il prend la guitare, une petite guitare acoustique, et il la fracasse contre un mur. La caisse de résonance est complètement démolie, il ne reste plus que le manche avec les cordes qui pendent au manche, et là il commence à vouloir me fouetter, me frapper avec ça. Donc moi je suis assis sur mon lit à ce moment-là, et je le regarde avec quand même pas mal de peur, et là j'ai vu rouge. Je me suis levé avec une rage incroyable, et la force qui est décuplée par cette rage, et je l'ai collé au mur, je lui ai retourné la main derrière le dos. J'avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien du tout, je me sentais très très mal de faire ça à mon père en même temps, mais je trouvais qu'il avait vraiment dépassé les limites à ce moment-là. Je lui ai collé la main derrière le dos et je lui ai dit « Mon vieux, plus jamais tu ne lèveras la main sur moi, t'as bien compris ?» Et là, je suis foutu le camp, et j'ai fugué pendant 2 jours. Et quand je suis rentré, en fait, il avait la main cassée, il avait la main dans le plâtre. Ce qui est étonnant, c'est que ça a complètement modifié nos rapports. Alors, ça a eu quand même un effet positif, c'est qu'il a effectivement plus jamais levé la main sur moi. Le second effet, mais que je vis maintenant plus ou moins comme positif, c'est qu'il m'a complètement désinvesti. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment plus intéressé à moi, ou très peu en tout cas. Et quelque part, moi, ça m'arrangeait bien. Et il est évident que ce qu'il a dû vivre là-bas, ce qu'il a dû agir et ce qu'il a dû subir pendant presque 4 ans sur le front de l'Est, il a dû revenir avec cette violence. Par exemple, mon frère était devenu quelqu'un de relativement capricieux. Il devait avoir 10 ans. À ce moment-là, on habitait dans un immeuble. Mes parents avaient un appartement qui était au 15e étage de cet immeuble. Il y avait une terrasse. Et mon frère, régulièrement, faisait du chantage au suicide, menaçait ma mère d'enjamber la balustrade et de se jeter dans le vide. Il faisait jamais ça quand mon père était là, bien entendu. Et évidemment, ma mère était complètement démolie par ce genre de choses. Et un jour, mon père est arrivé et mon frère ne s'en est pas rendu compte. Et mon père a surpris ça. Il est allé sur la terrasse, il l'a pris et il l'a suspendu dans le vide. Et il lui a dit, moi j'étais présent, donc j'ai vraiment insisté, il lui a dit... Tu veux vraiment faire ça? Parce que si tu veux vraiment faire ça, je te lâche. Il lui a dit, si je te surprends encore une seule fois à faire quelque chose comme ça avec ta mère, eh bien, je te lâcherai. Quand j'ai 25 ans, c'est le premier gros drame familial. Je vis à ce moment-là à Bruxelles avec mon épouse et mon fils. Il se fait que mon frère, à ce moment-là, c'était une grande maison communautaire, louait une chambre dans la même maison. Et je reçois un coup de téléphone de ma mère pour me dire « Ton père va très mal, tu dois venir au plus vite. Si ton frère est là, venez ensemble. » On part en voiture. Et quand on arrive à la maison, ma mère me dit « Votre père est mort. » Et en plus de ça, on apprend qu'il s'est suicidé. Pas de n'importe quelle manière, en plus de ça, parce qu'il s'est tiré une balle dans la tête. C'est une image traumatisante, et j'ai même un souvenir très précis, mais c'est presque comme dans un film. C'est qu'il y avait une mouche qui tournait tout le temps autour du visage de mon père, et qu'elle m'exaspérait prodigieusement, que je la chassais tout le temps. Cette image-là, elle est vraiment restée gravée dans ma mémoire. Peu de temps après, ma mère va commencer quand même à me parler un peu du passé de mon père. Je la questionne un petit peu. J'apprends à ce moment-là que 4 autres personnes qui étaient des proches, des amis de la famille, celui qui m'a été désigné comme parrain notamment, c'était tous des anciens Waffen-SS. Je suis incroyablement surpris. C'était en général pas des hommes que j'appréciais beaucoup, mais de là à m'imaginer qu'eux aussi avaient fait partie de la Waffen-SS, ça c'était quand même une très très grosse surprise. Je prends conscience qu'une grosse partie de mon environnement, c'était des anciens Waffen-SS et des gens avec qui j'ai d'ailleurs passé des vacances. Alors, dans mon enfance, sans que ce soit verbalisé, en filigrane, il y a évidemment des choses qui sont liées à leur passé et que donc, on ne les comprend pas, mais on ressent. Il y a une ombre sinistre qui plane. Et ça, moi, je l'ai ressenti très tôt. Très, très tôt. Mais sans pouvoir la nommer. Cinq ans après le suicide de mon père, là je vivais dans une petite maison à 7 ou 8 kilomètres de chez ma mère. Et de nouveau, un coup de téléphone de ma mère pour me dire « je crois que Guy a fait une bêtise ». Donc mon frère s'appelait Guy. Et elle me dit « il faut que tu viennes parce que je n'ose pas aller voir ». Et donc j'y vais. Et dans le garage, en fait, il avait sa voiture. Et... je l'ai découvert mort dans sa voiture. Il avait calfeutré toutes les ouvertures du garage, c'était un tout petit garage. Il avait mis un pavé sur l'accélérateur. Il s'était enfermé dans l'habitacle et il s'était endormi, probablement intoxiqué par le gaz carbonique. Je suis vraiment sonné et je ferai d'ailleurs des dépressions. Je vais faire 3 dépressions au cours de ma vie d'adulte. Ma vie d'adulte était plutôt chaotique, tant professionnellement qu'affectivement. J'étais quelqu'un de relativement instable. Et en 2010, enfin, je tombe sur une thérapeute avec laquelle je peux faire un vrai bon travail. Et je vais rester en psychanalyse pendant 4 ans. Et donc, au cours de cette psychanalyse, je me rends compte que je parle que de mon père. Je parle pratiquement pas de ma mère. Et alors ça me vient un peu comme une illumination, c'est que je repense au suicide de mon père et de mon frère. Mon père s'est tiré une balle dans la tête et mon frère s'est gazé. Et je me dis, mais ça c'est quand même complètement fou, parce que ça correspond aux 2 phases de la Shoah. La Shoah, ça a commencé par la Shoah par balle, mon père se tire une balle dans la tête. Et puis ça a continué avec les chambres à gaz et mon frère se gaze dans sa voiture. Et je formule ça évidemment comme une hypothèse. Que les suicides aussi peuvent être en relation avec la Shoah. En 2014, je décide de suspendre la psychanalyse avec l'idée que je dois faire des recherches sur le passé de mon père. Donc ma question fondamentale au départ, c'est une question purement intrafamiliale. Est-ce que mon père a participé ou non à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, voire à la Shoah? Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne suis pas historien. Bon, donc il y a un moment où je décide de remiser ça de nouveau dans un tiroir, parce que j'ai l'impression que je ne découvrirai jamais rien. Et il se fait qu'en 2017, il y a un collectif d'historiens belges qui publie un livre qui s'appelle « Papy était-il un nazi ?». Et c'est un livre qui donne en fait des boussoles à ceux qui se questionnent sur leurs ascendants pour savoir s'ils ont ou non été d'anciens nazis. Et j'apprends qu'en fait la source principale, c'est d'aller faire des recherches auprès des archives générales du royaume ici en Belgique. Il y a une procédure qui consiste à faire une demande auprès du collège des procureurs généraux que je fais. J'attends 4 mois et j'ai une réponse positive et j'ai accès au dossier de mon père. Et le dossier répressif, c'est l'instruction du procès, c'est-à-dire les interrogatoires de mon père, mais aussi de différents témoins. Et je vais découvrir là aussi des lettres qu'il écrivait à sa petite amie de l'époque. C'est assez frappant de voir ces lettres, de découvrir l'écriture de mon père aussi à ce moment-là, et puis surtout de voir l'enveloppe où il y a le cachet de la Feldpost et il y a le grade qui est marqué aussi, c'est-à-dire Oucha. Oucha, Jean le Jeune, et Oucha, c'est l'abréviation chez les Allemands de Unterscharführer. Unterscharführer, c'est un sergent dans la gradation SS. C'est là aussi que je vais découvrir qu'en fait, mon père, contrairement à ce qu'il m'avait dit, n'était pas un simple soldat, mais était un sous-officier. En juillet 1941, mon père s'engage dans la Légion Wallonie, créée entre autres par Léon de Grelle, dans le premier contingent, qui est un contingent de 850 hommes, Et j'ai découvert dans mes recherches d'ailleurs que lui, il avait le matricule 813. D'ailleurs, ils partent pour aller combattre contre l'Union soviétique. Ensuite, ils vont partir pour l'Ukraine. Ils vont arriver là, je crois même pas deux semaines après qu'il y ait eu un grand massacre de Juifs. Et ils vont commencer à avoir des missions de sécurisation, de nettoyage de la région des territoires conquis. Alors on sait ce que ça veut dire nettoyage en termes militaires en général, et tout particulièrement en termes nazis. Donc là, mon père se trouve au cœur d'une région qui a été vraiment un lieu d'extermination terrible des Juifs. Donc là, c'est aussi un deuxième mensonge que je découvre au sujet de mon père. C'est que lui m'a dit qu'il avait découvert ça quand il était revenu en Belgique, alors qu'il était vraiment en plein cœur de ce qu'on a appelé la Shoah par balle par la suite. Ça ne veut bien entendu pas nécessairement dire qu'il y a participé, mais ça veut en tout cas dire qu'il n'a pas pu l'ignorer. Le reste de l'année 42, c'est assez flou. Apparemment, il a été hospitalisé en Belgique pour se soigner. Combien de temps, ça, c'est pas très clair. Mais il semble qu'il soit resté jusqu'à la fin 42 en Belgique. À partir de la mi-43, il va entamer une formation de sous-officier à Posen, donc une ville polonaise. Et il va faire une formation de 6 mois pour devenir sergent. Et quand il aura terminé cette formation, il sera renvoyé en Ukraine. Et là, il va être très rapidement blessé le 14 février 44. Il sera rapatrié sur Stuttgart. C'est la fameuse blessure que j'ai découverte quand j'étais dans la Vasque avec lui. Et alors à ce moment-là, c'est la contre-offensive russe. Et puis il monte sur le front de Poméranie. Et fin février 44, il déserte. Ça, j'ai trouvé mention de sa désertion dans le dossier répressif. Il déserte, il se rend soviétique, et les soviétiques vont l'utiliser sur des voitures radio qui longent la ligne de front, et avec des haut-parleurs, il est censé appeler ses camarades de combat à la démobilisation. Après ça, il va faire 9 mois de camp en Union soviétique, et comment il revient en Belgique, ça je ne sais pas. Toujours est-il qu'on le retrouve en novembre 1945 en Belgique. Et là, il se fait apparemment très rapidement alpaguer par la Sûreté de l'État. Et là, il va être condamné à 12 ans de prison. Il en fera 3,5 exactement. Après, il va être libéré en conditionnel. Il va y avoir un parcours de réhabilitation. Il va être réhabilité en 1961. Dossier répressif, il y a des appels à témoins. Et un de ces témoins, un ancien officier de la Légion Wallonie, qui était d'ailleurs le supérieur hiérarchique immédiat de mon père, laisse entendre que mon père a probablement donné leur position aux Soviétiques. Pourquoi, dit-il? Parce que quand les Soviétiques sont arrivés sur leur position, ils l'ont directement appelé, ce lieutenant, par son nom de famille. Et comme il savait que mon père avait déserté, il a supposé que c'était mon père qui avait dénoncé les positions et qui avait donné le nom des officiers qui étaient là. Faire cette enquête, ça peut paraître surprenant, puisque je vais quand même fouiller des choses qui sont particulièrement horribles, sordides, terrifiantes. Mais moi, je me soigne à travers cette enquête. Et je me sens beaucoup mieux, parce que tout simplement, je comprends. C'est-à-dire que je mets de la lumière là où il y a quelque chose de toxique et qui permet, à mon avis, de comprendre mieux le fait que dans ma famille, chez les hommes, il y a eu beaucoup de dépression. Parce que mon père a aussi été dépressif à un moment de sa vie. Je dois dire que mon fils aîné aussi a fait des dépressions. Moi, j'ai fait des dépressions. Et tout ça sans vraiment comprendre d'où ça vient. J'ai vécu la révélation, le passé de mon père, comme une tâche sur ma famille. Tâche que j'ai, pendant une grande partie de ma vie, cherché à dissimuler. À mon avis, il n'y a rien de pire que ce qu'on dissimule. Et donc, mon travail, justement, a été d'essayer de la voir, de ne plus la cacher et de comprendre ce qu'elle était exactement. Et c'est un travail qui est à la fois un travail de soins, de soins personnels, de soins de ma famille, mais qui est aussi un travail de recherche historique. Et c'est d'ailleurs maintenant très très bien vécu, par, me semble-t-il, par mes enfants d'ailleurs, dont j'avais senti un peu de réticence au départ, et qui maintenant, je pense notamment à ma fille, qui est totalement passionnée par toutes les recherches que j'effectue. Et ça, c'est très gratifiant pour moi, évidemment. Cette enquête m'a fait le plus grand bien et a fait le plus grand bien à ma famille aussi.
C'était Fils de SS, un reportage d'Antoine Guérimand réalisé par Anne-Laure Chanel et mixé par Nicolas Leroulet. Merci à Philippe Douroux, Frédéric Albert et Jean Bulot. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et Adèle Toquet, c'est notre stagiaire.
I had a dream. She took my hand. I had my call to the Titanic band. Playing the map, miles from land, nothing left to do but grip on that hand. Oh, this is love's last day up. Can we stay here? She didn't know. Began to dissolve along with her soul. I couldn't remember her face.